pour des raisons historiques évidentes, très très opposées à la Russie. Georgina White, est-ce qu'elle a encore suffisamment d'alliés donc pour changer l'Europe de l'intérieur comme elle le souhaite ardemment?
Alors, il y a deux façons de changer les choses à l'intérieur de l'Union européenne. Soit on crée des coalitions et au sein du Conseil, donc le groupement des 27 États membres, et puis on essaye d'avoir une majorité au sein du Parlement européen. Là, elle n'a ni l'un ni l'autre. Je veux dire, avec la Pologne et la Hongrie, ils ne sont pas suffisamment, ils ne représentent pas une majorité pour vraiment forcer, soit en fait mettre fin à certaines propositions ou les changer. Par contre,
c'est une majorité, pardon, ou une unanimité, ou une majorité qualifiée.
Une majorité qualifiée, donc au moins 55% des États membres qui représentent 65% de la population. D'accord. Donc c'est pas facile. Par contre, elle pourrait tout à fait entraver les discussions. Donc en fait, on pourrait voir un rythme du travail européen qui s'estompe,
un travail de
ralentit. Voilà. Donc il y a d'autres manières en fait de ralentir, mais c'est plus difficile de réformer si on n'a pas les nombres nécessaires. Par contre, ce qu'on pourrait voir et ce qu'on voit déjà, c'est que le fait que Marine Le Pen soit arrivée au second tour, ça a donné vraiment un élan à beaucoup de partis et de députés d'extrême droite partout en Europe. Ouais. Et il y a évidemment cette élection du Parlement européen en 2024. Et là, ça sera intéressant de voir effectivement si parviennent à devenir la deuxième grande famille au sein du Parlement européen. Mais pour l'instant, même si Mme Le Pen est élue, elle n'aurait pas les nombres pour vraiment, je pense, changer. Mais par contre, entraver les discussions, tout à fait.
À l'inverse, Jean-Dominique Mercier, est-ce que le projet d'intégration renforcée et de souveraineté européenne d'Emmanuel Macron peut s'appuyer à l'intérieur de l'Europe sur une majorité qualifiée? Enfin, est-ce qu'il a suffisamment d'appui pour aboutir à ce qu'il souhaite?
Ça dépend sur quel sujet. Sur les sujets industriels, sans doute. Parce qu'il y a un souci commun en Europe de préserver la base industrielle et économique. Sur les sujets militaires, j'en doute très fort, parce que militaire et stratégique et politique internationale, parce que là, au contraire, c'est l'OTAN qui sort considérablement renforcé de la crise ukrainienne. Et donc, oui à la souveraineté européenne, pardon, sur les aspects économiques, technologiques. C'est à mon
sur
avis,
la question de la défense européenne,
l'affaire est pliée pour très longtemps, en tout cas, sur les aspects militaires.
Alors, on va s'intéresser au chancelier allemand Olaf Scholz, son portrait réalisé par Thibault Nolle dans le Rayon X, qui a co-signé aujourd'hui une tribune dans le quotidien Le Monde, appelant carrément les Français à voter pour Emmanuel Macron.
Bonjour docteur, j'ai mal ici et là.
Une petite déprime passagère, c'est tout.
Évidemment, je fais du sport.
Mon cher Olaf Scholz, j'ai vos radios sous les yeux, c'est gazeux. Vous êtes le successeur d'Angela Merkel au poste de chancelier allemand depuis 4 mois. Social-démocrate coalisé avec les Verts, les libéraux, vous vous êtes mis d'accord sur une Europe fédérale, le vote à 16 ans, le cannabis légalisé, 80% d'énergie renouvelable en 2030, 400 000 immigrés économiques par an ou le SMIC à 12 euros de l'heure. Mais pas sur la façon de danser avec Poutine.
Je respecte trop la danse et la politique pour mélanger les deux. Quoiqu'une petite lambada social-réformiste...
Les socialo-allemands et la Russie, c'est plutôt un vieux slow. Depuis Willy Brandt et sa politique d'ouverture vers l'URSS, ou Gerhard Schröder, ami porte-parole et administrateur des grands conglomérats de Poutine, jusqu'aux députés européens du SPD qui n'ont pas voté l'embargo de l'UE sur les combustibles russes. Vous-même freinez les sanctions sur le gaz pour protéger votre économie, alors que les Pays-Baltes ont réussi à couper le robinet et que Mario Draghi, dont l'Italie dépend aussi du gaz russe, résume. La question est de savoir si l'on préfère la paix ou si on veut rester tout l'été avec l'air conditionné.
Merci Mario, mais en mer du Nord, la clim n'est pas notre obsession.
Ancien avocat, ancien député, ancien ministre, ancien maire de Hambourg, vous êtes surtout né à Osnabrück, la ville du traité de paix européen qui mit fin à la guerre de 30 ans, ce qui a peut-être chatouillé votre inconscient lorsque vous avez durci le ton avant-hier.
Das tausendfache Töten von Zivilisten, wie wir es gesehen haben, ist ein Kriegsverbrechen, für das der russische Präsident die Verantwortung trägt.
Acheter du gaz chez le boucher, c'est ce qu'on appelle la transgression énergétique.
Pendant les élections, on vous disait austère. Vous aviez répondu
« Je me présente pour être chancelier, pas directeur de cirque ».
Ensuite, au début de la guerre, on vous a dit inhibé, ambigu, absent. Là, mon cher Olaf, vous avez mis de l'eau dans le gaz. Prost !
Je dirais même plus, de l'eau de Cels dans le Gazprom.
Merci Thibault. Vincent.
Frédéric Ancel, dans le monde, 3 premiers ministres européens, Antonio Costa, le portugais, Pedro Sanchez, l'espagnol, et Olaf Scholz, l'allemand, ont appelé à voter directement pour Emmanuel Macron. Je crois que c'est une chose inédite que des premiers ministres prennent ainsi la plume pour donner cette ce qu'on peut appeler une consigne de vote. Dans le cadre du couple franco-allemand que remet en cause Marine Le Pen, est-ce qu'il n'y a pas, quand même sur la question militaire dont parlait tout à l'heure Jean-Dominique Mercher, un malentendu entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Je pense notamment aux commandes militaires faites ou programmées par l'Allemagne pour les Américains.
Ah, mais au-delà de ces deux personnalités, il y a un malentendu fondamental, sinon une contradiction très grande entre la France et l'Allemagne. La France se représente encore, à tort ou à raison, comme une puissance globale, une grande puissance, si vous voulez, et y met les moyens et le discours. L'Allemagne, non. Et on voit bien que les Allemands, tout à l'heure j'évoquais le gap entre le quantitatif et le qualitatif. Les Allemands mettent 100 milliards sur la table en guise d'ailleurs de simple rattrapage. Mais enfin, c'est beaucoup. Bon, mais que vont-ils en faire? Est-ce que constitutionnellement, ils vont accepter de projeter éventuellement, encore une fois, cette puissance demain dans le cadre d'une et en faveur d'une Europe puissance? Où est-ce qu'ils renforcent surtout l'OTAN? Écoutez, au regard de leur choix de chasseurs-bombardiers qu'ils ont effectué en faveur des F-35 américains et non des Rafales, je penche plutôt effectivement vers un renforcement de l'OTAN. Et de ce point de vue-là, on ne parle pas la même langue.
Qui n'est plus en état de mort cérébrale. Il faut tout de même le remarquer. Jean-Dominique Mercher, ça veut dire quoi sortir du commandement intégré de l'OTAN, de
l'Alliance Atlantique ? Pas grand-chose en termes pratiques.
Ah bon ? Ce qui est la volonté de Marine Le Pen.
Du commandement militaire de l'OTAN de 1966 à 2009. Ça ne nous a pas empêché, par exemple, de participer à la guerre en Bosnie, à la guerre du Kosovo, au sein de l'OTAN. Donc, ça, pratiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, le signal politique sera extrêmement fort. Donc, militairement, peu de conséquences, d'autant que Marine Le Pen dit dans la même dans la phrase suivante, je sors du commandement intégré de l'OTAN, mais je passe un accord stratégique avec les États-Unis. Donc ça veut dire, et ça c'est ce que veulent les militaires français, c'est maintenir la coopération avec les États-Unis. Militairement, pas d'importance. Politiquement, un effet énorme au moment où justement tout le monde a besoin, envie que l'OTAN les réassure. Voilà. Donc l'effet politique serait très fort. Pour un effet militaire, sans doute pas très important.
Georges Naouet, une victoire éventuelle dimanche soir d'Emmanuel Macron serait-elle profitable pour tous ceux qui défendent son projet européen? Quand on revient sur la tribune que j'ai citée des trois premiers ministres, est-ce qu'il peut y avoir une forme de dynamique qui s'installe pour les dernières semaines de présidence française du Conseil?
Bon, plusieurs choses. Déjà, je crois que la dynamique, elle s'est inscrite en 2017 après le discours de la Sorbonne. Si on regarde le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en janvier, il y avait 250 textes en discussion au sein du Conseil. C'est énorme. Et pour la plupart, la France a été motrice. Donc je pense que c'est une dynamique qui continue. C'est pas vraiment une nouvelle dynamique. Alors, ceci dit, pour la présidence française du Conseil de l'UE, vraiment la concentration de toutes les activités était les trois premiers mois avant la période de réserve électorale. Donc je pense qu'il y aura un sommet ou deux, mais après c'est finalisé finalement les négociations qui sont déjà en cours. Par contre, je crois que ça va vraiment donner de l'élan à Emmanuel Macron de pousser ces discussions qui sont plus difficiles, comme la révision des règles budgétaires, comme la réforme de l'espace Schengen, la libre circulation, de bien entretenir ses frontières, etc. Donc il y a des discussions difficiles qu'il n'a peut-être pas osé vraiment pousser pendant la présidence française du Conseil de l'UE, mais s'il est réélu, peut-être que ça lui donnerait plus une dynamique d'aborder ces sujets qui sont un peu plus conflictuels.
Mais vous avez un sens des horloges parfait, c'est la fin. C'était le mot de la fin. Bravo. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Dans un instant avec Xavier Mauduit et Alix Van Pé, on va évoquer la fonte de la banquise en Antarctique avec un record alarmant pour 2022 et du côté d'un célèbre oasis anglais.